Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière à la présidentielle, est notre invitée. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous ce soir. La révolution en campagne, donc, contre les ravages du capitalisme, c'est bien ça. Pour vous, le capitalisme, ce ne sont que des ravages, Nathalie Arthaud, d'abord.
Bah écoutez, enfin, je ne sais pas, la réalité parle d'elle-même, non, vous ne croyez pas? Le chômage qui a explosé, 11 millions de femmes et d'hommes en dessous du seuil de pauvreté en France. Dans la cinquième puissance quand même du monde, hein, nous dit-on. Voilà, 4,5 millions de chômeurs, des gens qui doivent compter euro après euro pour remplir leur frigo, qui, pour chauffer même, doivent réfléchir à quelle pièce donner la priorité. Donc oui,
bien sûr,
des ravages.
C'est une réalité.
C'est une catastrophe sociale pour les classes populaires. Hein. Je ne parle pas là du monde de Bernard Arnault, de Madame Bettencourt, de Monsieur Proglio ou du patron de Publicis, dont j'ai d'ailleurs oublié le nom.
Maurice Lévy. Voilà, qui a touché un bonus, voilà. Une rémunération différée de 16 millions
quand même. Voilà, c'est pas mal. Donc pour eux, évidemment, j'imagine bien qu'ils ne voient pas les choses de la même façon.
C'est moins difficile dans ce cas-là. Tout le monde en conviendra, Nathalie Arthaud. Vous êtes donc engagée dans votre première campagne présidentielle, hein, après la longue épopée, on va dire comme ça, d'Arlette Laguiller, dont vous êtes très proche d'ailleurs. Elle vous conseille, hein, chaque
bien
jour
sûr,
au téléphone.
Bien sûr. Oui. Bien sûr, elle est dans la campagne, bien sûr, elle suit tous les jours.
Alors, Samir Tounsi de l'agence France Presse, puis Perrine Tarnot de Public Sénat, nous rejoindront tour à tour au cours de cette émission. Où est-ce que vous préférez aller d'abord? J'ai envie de vous poser cette question. Sur les plateaux de télévision ou dans les usines?
Moi, je ne vais pas, je ne fais pas le tour des usines. Quand
vous
les travailleurs,
présente.
Quand les travailleurs, les militants, lutte ouvrière, moi-même, je travaille. Donc, je
oui,
suis présente.
Vous êtes enseignante.
Je suis enseignante, je travaille dans mon lycée.
À l'occasion de la campagne, vous allez sur le terrain.
À l'occasion de la campagne, je réponds aux invitations des travailleurs qui considèrent que ma présence peut leur être utile. Voilà, et qu'ils ont besoin d'un soutien. Donc, je leur apporte quand je le peux. Mais je n'ai pas besoin de faire le tour des usines, moi. Les militants de lutte ouvrière sont dedans, sont de tous les combats. Et voilà, donc c'est pas de façon artificielle, si vous voulez,
oui.
Comme peut le faire
on sent
les uns ou les autres.
La crainte, vous n'aimez pas la personnalisation.
Nous appelons lutte ouvrière,
politique.
Voyez, nous appelons lutte ouvrière, et ça a une raison. La raison, c'est que justement, nous sommes dans la classe ouvrière et qu'on tient bien, voilà, à défendre par nous-mêmes en faisant de la politique justement par en bas.
Vous aimez haranguer la foule et les journalistes aussi, parce que quand on vous écoute, déjà on a un petit aperçu, l'émission ne vient que de commencer et on sent un débit incessant. Hein.
Oh si, si, je peux faire moins si vous voulez.
C'est vrai.
Mais ce que j'aime en tout cas en campagne, c'est effectivement les meetings, ça c'est certain, que dans les meetings, on peut s'exprimer, voilà, on peut dire tout ce qu'on pense, expliquer, convaincre, et on a le temps. Donc c'est appréciable.
Une question qu'on pourrait peut-être poser à tous les candidats, vous allez me répondre, est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois de toujours répéter les mêmes choses mécaniquement, Nathalie Arthaud?
Ah, ça peut arriver. Ça
ouais.
peut arriver, bien sûr. Oui, ça peut arriver. Mais en même temps, chaque interview est différente. Vous voyez, avec vous, c'est toujours très original.
Bon, écoutez, ben, je compte sur vous pour m'aider alors. Hein. On prend le pari pour les 40 minutes qui nous restent. Quel est votre modèle de société?
Ben écoutez, c'est une société où l'économie serait maîtrisée par l'ensemble de la population. Une société où on ne vivrait pas cette économie complètement folle. On a l'impression un peu d'être dans une maison de fous quand même. Hein, où plus on produit de richesses, plus on est capable de fabriquer des profits et moins cela est rejailli sur l'ensemble de la population et sur les travailleurs. Et plus cela devient même nuisible à toute la société parce qu'on voit ces profits happé hein, par la spéculation et on voit ses profits finalement se retourner contre toute l'économie parce qu'entraîner, hein, ses profits entraînent l'économie eh bien dans la crise.
Alors on vous
donc,
écoute.
On est dans une économie, oui, injuste, inégalitaire et complètement irrationnelle. Donc
et
moi,
condamnée, même, vous ajoutez. Vous bah estimez
je pense,
que notre
oui.
économie capitaliste est condamnée. Mais à quelle échéance? C'est quoi? Dans 6 mois? Dans 10 ans? Ou dans 20 ans?
Vous savez, une économie qui creuse les inégalités, qui condamne ceux qui la font tourner au quotidien, les travailleurs, à reculer, à devoir moins se soigner, à avoir des difficultés pour se loger, pour se nourrir, pour éduquer ses enfants, oui, je pense qu'elle n'a pas d'avenir. Elle n'a pas d'avenir. Parce que forcément, qu'est-ce que vous voulez une société comme ça? Eh bien, elle produit ceux qui ont envie de la combattre, voyez-vous. Donc, évidemment, quelle échéance? Moi, je n'ai pas de boule de cristal.
Oui.
Hein, ce que je sais, c'est que toutes les sociétés qui ont été des sociétés d'oppression, d'exploitation, d'exploitation, eh bien oui, elles ont été transformées, elles ont été contestées.
Et on ne voit pas toujours très bien le modèle que vous voulez opposer à celui qui existe, qui a ses laissés pour compte, qui a ses pauvres, on en est tous conscients, mais qui fait vivre aussi beaucoup de monde. Il y a quand même beaucoup de gens qui, tous les matins, vont au boulot, hein, Nathalie Arthaud, vous en faites partie, moi aussi.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, qu'il n'y a rien d'autre d'imaginable?
Non, mais je vous demande, quelle est votre solution alternative?
Moi, je suis communiste révolutionnaire.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai bien cet idéal-là, hein, qu'on peut, oui, organiser l'économie de façon collective, sans en laisser la direction à une minorité du simple fait qu'elle a apporté les capitaux. Eh bien, voilà, qu'on ne laisse pas, si vous voulez, la direction de ces grandes entreprises. Il y a 200 grandes entreprises en France qui dominent toute l'économie, qui dominent les millions de petites entreprises, de PME dans le pays. Et ces 200 entreprises, eh bien, elles sont dirigées par des conseils d'administration qui sont dans les mains de quelques milliers de grands actionnaires et qui décident pour tout le monde, voilà, qui imposent leur diktat à toute la société. Eh bien, nous sommes pour qu'à la place de cette minorité qui décide, eh bien, on mette en commun, effectivement, ces grands moyens de production, à commencer par les banques. Hein. Donc, nous sommes pour exproprier, effectivement, les banquiers, mettre en commun et fusionner toutes ces banques et les faire fonctionner sous le contrôle des employés de banque, des usagers des banques, collectivement, voilà, qu'il n'y ait pas un conseil d'administration comme ça, hein, qui fonctionne secrètement pour les profits égoïstes d'une minorité. Ça s'appelle, bah oui, le communisme.
Hein. D'accord.
Voilà, alors, c'est cet idéal qui a, si vous voulez, animé les révolutionnaires de la Commune de Paris. Ici, en France, oui.
Je vous écoute attentivement, là, parce que j'entends vos références. Vous avez compris sur qui j'allais vous interroger.
Et qui ont animé aussi les révolutionnaires russes de 1917.
Alors.
Et qui ont commencé, évidemment, à réaliser, hein, dans les premières années, cet idéal-là.
La Commune de Paris, c'est là aussi, également la référence de Jean-Luc Mélenchon. Je vous propose de tout de suite en parler, si vous êtes d'accord.
Bien sûr.
Jean-Luc Mélenchon. Vous le dites complémentaire de François Hollande. Pourtant, il a dit qu'il allait poser des conditions pour son ralliement au candidat socialiste. Vous ne le croyez pas?
En l'occurrence, pour le deuxième tour, il n'y a aucune condition. Pour appeler à voter Hollande au deuxième tour, il n'y a aucune condition. Il l'a dit et redit, c'était la règle du désistement républicain.
Qui l'a dit?
Jean-Luc Mélenchon.
Ah,
Jean-Luc Mélenchon explique qu'il y a de toute façon le désistement républicain.
Non, mais il a dit que ça n'était pas à prendre ou à laisser, comme l'a dit sur notre antenne d'ailleurs le socialiste Jérôme Cahuzac.
Alors,
donc il veut poser ses conditions.
Ça, c'est pour un pacte de gouvernement ou répartition pour les législatives. Mais pour appeler Hollande au deuxième tour, c'est automatique. Et vous voyez, même de ce point de vue-là, finalement, il est en deçà de ce qu'a obtenu Europe Écologie Les Verts, puisque Europe Écologie Les Verts ont d'ores et déjà quand même justement posé un certain nombre de conditions. Là, c'est effectivement le désistement, donc le ralliement complet, hein, au deuxième tour. Voilà. Et finalement, il amènera tous ses électeurs qui sont critiques, à juste titre, hein, à mon avis, de Hollande, eh bien, il les amènera à faire élire Hollande. Voilà. Voilà pourquoi je parle de complémentarité, effectivement, de division du travail entre Hollande et Mélenchon.
Mais vous, même avec votre score assez réduit, d'après les sondages aujourd'hui, autour de 1%, vos électeurs aussi, ils voteront François Hollande au second tour. Vous-même, c'est le bulletin que vous mettrez dans l'urne au second tour.
Écoutez, vous vous attendrez, soyez patient. Moi, le bulletin que je mets dans l'urne, c'est au premier tour qu'on peut s'exprimer. Donc, il faut être patient pour savoir, le second tour arrivera en temps et en heure.
Bien sûr, mais on peut déjà en parler.
Eh bien non, justement. Non, parce que, écoutez, cette campagne, il faut la faire. Et l'élection, il faut la faire aussi. Donc, je suis désolée, il y a une campagne au premier tour, on est 10 candidats, on a chacun notre programme à amener, et moi, c'est sûrement pas pour me taire, hein, ou pour m'éclipser derrière un tel ou un tel, et sûrement pas derrière, d'ailleurs, Hollande, hein, dont je ne vois absolument pas en quoi son élection va protéger les travailleurs des licenciements, des bas salaires, du chômage. Hein, quand je vois les engagements de Hollande, c'est clair que Hollande ne s'engage que vis-à-vis des banquiers. Mais bien sûr, écoutez, il a d'ores et déjà expliqué, hein, que sa priorité, c'est effectivement de payer la dette, hein, de payer ses intérêts, 50 milliards quand même par an, hein, et ça sera payé, rubis sur ongle, voilà. Et donc,
qu'est-ce que vous en faites, vous, de la dette?
Eh bien, la dette...
1700 milliards que...
Oui. 500 milliards de dettes supplémentaires là, sur ces 5 ans, effectivement. Eh bien, moi, je dis que cette dette, c'est la dette de la bourgeoisie. C'est à elle de payer, tout simplement. Voilà. Vous remboursez vos dettes.
J'essaie.
Voilà, moi aussi. Tous les travailleurs qui ont des dettes, hein, qui sont endettés, qui ont emprunté, ils doivent payer. Les travailleurs, ils empruntent pour leur voiture, pour leur logement, des fois même pour soigner, vous voyez, ou pour payer les études de leurs enfants. Et ils payent leurs dettes. Eh bien, moi, je dis que ceux qui ont fait cette dette et ceux qui ont fait cette dette, c'est les banquiers.
C'est pas les gouvernements successifs.
C'est les gouvernements au profit des banquiers. C'est de l'argent qu'on a mis.
Pour maintenir un certain modèle, peut-être.
Non,
aussi.
Attendez, c'est pas de l'argent qui est allé ni dans les hôpitaux, ni dans les écoles, ni dans les retraites. Aucun travailleur n'a vu la couleur de cet argent. Ces milliards, ils ont été mis sur la table pour les banquiers, pour les groupes de l'automobile. Ça a été la prime à la casse, mais ça a été aussi les exonérations, en veux-tu, en voilà, de toutes sortes qui ont été mises. Et c'est des milliards,
là, il y a un tour de vis qui est annoncé, hein, sur toutes les exonérations. Vous devriez être heureux sur... niches fiscales, François Hollande comme Nicolas Sarkozy disent qu'ils vont fermer le robinet.
Oui, bah écoutez, moi j'ai surtout compris que Nicolas Sarkozy avait eu encore une idée géniale, hein, d'une exonération de cotisations sociales pour les patrons qui embaucheraient plus de 55
seniors,
ans.
Oui.
Alors vous voyez, encore, c'est combien 3, 4, 5 milliards. Alors, soi-disant, il n'y a plus un euro dans les caisses publiques, mais là encore, ils trouvent quand même des milliards de cadeaux à donner. Alors voilà, moi, cette dette, je suis pour qu'elle soit remboursée, mais par ceux qui l'ont faite, tout simplement.
Pour vous, vous ne faites pas de différence entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, ce sont vos deux adversaires.
Mon adversaire, c'est bien sûr Nicolas Sarkozy. C'est lui qui a été au pouvoir, c'est lui qui a couvert finalement le diktat patronal, hein, qui a justifié à chaque fois, hein, les coups qui sont tombés sur la tête des travailleurs, qui a fait le boulot, qui a tiré les marrons du feu pour les grands groupes, pour les plus riches sur ces 5 ans. Donc c'est évidemment lui, mon adversaire. Et en même temps, je n'ai pas d'illusion. Hein, c'est pas parce que on a tout lieu de vouloir se débarrasser de Sarkozy que je vais tomber dans les bras de Hollande. Hein, Hollande, il s'est engagé à rien vis-à-vis des travailleurs. Excusez-moi, mais il n'y a rien sur les salaires, il n'y a rien pour s'opposer aux fermetures d'entreprises, il n'y a rien pour obliger le patronat à embaucher. Et il faudrait qu'il embauche, parce qu'il y a 4,5 millions quand même de personnes qui attendent un emploi aujourd'hui dans le pays. Donc il n'y a rien vis-à-vis des travailleurs.
Il y a des mesures que vous trouvez insuffisantes et qui s'apparentent à rien, selon vous. Hein, Nathalie Arthaud, dernière question.
Insuffisantes, je ne vois même pas. Mais vous savez,
Ouais.
Y compris sur, quand il parle de retraite à 60 ans, écoutez, c'est retraite à 60 ans pour ceux qui ont travaillé, qui ont cotisé 41 annuités, qui ont cotisé, hein, pas seulement validé, cotisé. Alors tout ça, ça se réduit et finalement, ce sera une toute petite minorité, hein, qui pourra espérer partir effectivement à 60 ans. Donc non, ces promesses-là, vraiment, c'est le strict minimum. Et en plus, Hollande nous explique que tout ça, c'est conditionné, évidemment, comme toujours, à la croissance. C'est-à-dire que tout ça, c'est très hypothétique.
Et
que
les travailleurs, il faut surtout qu'ils se préparent. Les fruits, il faut qu'il y ait la croissance.
Mais écoutez, les profits sont là. Il y a 73 milliards qui ont été réalisés. Quand on entend parler des exilés fiscaux, qu'une enquête d'un journaliste explique que depuis 2000, il y a près de 600 milliards qui sont partis dans les paradis fiscaux, excusez-moi, mais ce n'est pas l'argent qui manque.
Alors, encore une question, tiens, sur Mélenchon. Dites un mot pour le défendre, puisque Laurence Parisot l'a présenté comme le candidat de la terreur. Alors, vous n'avez pas envie de le défendre, là, candidat de la gauche extrême,
écoutez,
vous qui êtes la candidate de l'extrême gauche.
Mais il n'en faut pas beaucoup pour que les patrons hurlent à la mort. Hein. Il n'en faut pas beaucoup en général. Il suffit de toucher un de leurs cheveux pour qu'ils hurlent. Donc vous voyez, là-dessus, moi, c'est pas là-dessus que je me calerai. Hein. Moi, je pense que les travailleurs devraient s'inspirer finalement de ce que font les patrons. Hein. Dès qu'on touche un petit peu à leur intérêt... Ils hurlent, ils crient, au secours, au secours. Mais il faudrait que les travailleurs fassent pareil, qu'ils se défendent, qu'ils ne se laissent pas faire.
Alors, hein, en tous les cas...
On a des exemples à prendre, je crois, là.
Contrairement à Jean-Luc Mélenchon qui prône la révolution par les urnes, vous, j'ai quand même compris que vous prenez la révolution tout court, Nathalie Arthaud. Et alors, on voit avec Mounir Soucy que c'est plus, évidemment, qu'une simple différence de langage.
Si au PS le changement c'est maintenant, à Lutte ouvrière, le slogan serait plutôt « La révolution c'est pour quand ?». Le parti est présent à chaque présidentielle depuis 1974, pourtant l'élection n'est pas une fin en soi.
On est les seuls sans doute dans cette élection à dire que le bulletin de vote ne peut pas changer la vie. Ce qui peut changer la vie, c'est la vie des travailleurs, c'est leur lutte collective.
Le grand soir ne viendra donc pas par les urnes, mais grâce à la mobilisation des ouvriers, vaste programme. Pourtant, en Amérique latine, des expériences ont permis de changer le système par le haut, notamment au Venezuela.
On a vu se développer depuis la chute du mur de Berlin, depuis la fin de l'Union soviétique en 1991, d'autres mouvements que l'on pourrait qualifier facilement d'alternatifs ailleurs qu'en Europe. Il faut citer notamment le cas du Venezuela, on pourrait en citer d'autres, il y a eu d'autres tentatives, en Amérique centrale notamment, le mouvement zapatiste au Mexique aussi sont des mouvements qui se veulent un peu alternatifs.
Pour le parti trotskiste, les seuls moyens de rompre avec le capitalisme sont d'interdire les licenciements, de réquisitionner les logements vides ou d'exproprier les grands groupes. La lutte des classes comme unique moteur politique.
L'expropriation, en pratique, c'est quoi ? C'est que c'est plus les actionnaires qui décident. C'est plus les actionnaires qui dirigent cette entreprise. S'ils l'ont mis en faillite, c'est des incapables. C'est-à-dire, il faut que ça soit les travailleurs qui prennent en main cette entreprise. Il faut que ça soit les travailleurs ou il faut que ça soit l'État. En tout cas, il ne faut plus que ce soit les actionnaires.
Mais imposer de tels changements ne peut pas se faire sans quelques accros.
Révolution et non-violence, c'est presque une équation impossible. Gandhi l'a espéré. Gandhi n'était pas un marxiste.
Avec moins de 1% dans les intentions de vote et un taux de syndicalisation au plus bas, lutte ouvrière doit encore abattre quelques murs avant d'entrevoir la révolution prolétarienne.
Voilà, alors Samir Tounsi de l'agence France Presse est avec nous. Samir, bonsoir.
Bonsoir Michel.
Vos questions à Nathalie Arthaud.
Bonsoir Nathalie Arthaud.
Bonsoir.
Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure à Michel Grossior. Arlette Laguiller, au soir du premier tour de 2007, avait appelé à voter pour Ségolène Royal. François Hollande est tellement pire que ça pour la classe ouvrière que Ségolène Royal ?
Comme vous l'avez dit, c'était au soir du premier tour, donc attendez le soir du premier tour.
Tout vous ne l'excluez pas.
Pardon ?
Malgré la diatribe anti-Hollande que nous venons d'entendre, vous n'excluez pas au soir du premier tour d'appeler.
Mais encore une fois, il faudra être patient. Et voilà, moi je veux. Écoutez, ça suffit quand même. Depuis. Ça fait déjà, je sais pas, presque un an. Hein, qu'on nous présente effectivement un duel, Parti Socialiste, UMP.
Ah, ça se confirme,
il y a de la place que pour ces gens-là, d'accord ? Que pour leur voix à eux. Alors, bon voilà, moi j'ai un programme à défendre, effectivement, des idées, des convictions, un idéal, donc je compte bien le faire. Je compte bien le faire et pas toujours être jugé par rapport ou...
Il s'agit de savoir aussi si vous souhaitez 5 ans de plus avec Nicolas Sarkozy ou une alternance. Qu'est-ce qui est le plus favorable pour les ouvrières ?
Évidemment que c'est... Non mais nous, on n'est pas ni pour la politique du pire... Et évidemment que je ne souhaite pas 5 ans avec Sarkozy, c'est évident. Et en même temps, je sais que se débarrasser de Sarkozy, ça voudra toujours quand même dire qu'on sera confronté à ce patronat rapace qui n'a qu'une seule et même politique, c'est de faire payer quand même la crise, les dégâts de la crise aux travailleurs. Parce que c'est ça qui s'est passé quand même pendant ces 3 années de crise. C'est que ces messieurs s'en sont sortis, eux, indemnes, avec tout leur pouvoir, avec leurs profits, et ils ont garanti leurs dividendes à leurs actionnaires. Et ils continuent de le faire. Mais ils l'ont fait en sacrifiant les travailleurs, en sacrifiant leurs emplois. Ils ont quand même fait 1 million de chômeurs. Hein. Ils ont quand même semé la misère et le chômage dans le pays. Alors, ça, moi j'appelle ça une politique patronale, j'appelle ça la lutte de classe, et je suis bel et bien convaincue que quel que soit le gagnant de l'élection, cette lutte de classe, elle va se poursuivre.
Qu'est-ce que... On vous a déjà entendu, vous êtes souvent sous les médias, on entend ce discours qui a sans doute des fondements de vérité et d'un fondement militant. Qu'est-ce que la campagne vous apprend, très sincèrement ? Michel Grossier, vous demandez si vous alliez dans les usines, vous faites des déplacements, vous rencontrez les Français, plus peut-être que dans votre activité militante ordinaire. Qu'est-ce qu'elle vous a appris jusqu'à présent, la campagne ?
Oui, c'est mon activité militante ordinaire qui m'apprend.
Non, mais là,
m'apprend.
Vous avez la possibilité, la chance de vous déplacer tous les jours dans différents coins de France.
Eh bien, ce qui m'apprend...
Quelle nouvelle perception de la réalité de la société française vous avez depuis le début de cette campagne ?
Ce n'est pas une nouvelle réalité, c'est une confirmation, si vous voulez. À chaque fois que je vais dans une ville ou dans une région, je peux faire une liste d'entreprises, petites et grandes, qui ont licencié. Je peux faire une liste. Hein. Dans toutes les régions, ce qu'on voit, c'est des hôpitaux qui se restructurent, des maternités qui ferment.
On n'a pas besoin d'être en campagne pour le savoir. Vous n'avez pas une remontée du terrain ? Vous n'avez pas appris quelque chose depuis que vous faites un tour de France ?
La remontée du terrain, c'est ça. C'est une colère. Je peux vous garantir qu'il y a une colère qui s'accumule dans les classes populaires, qu'il y a un sentiment d'injustice énorme. Quand on croise les travailleurs du groupe Paru Vendu, qui a été liquidé par le groupe Hersant, un groupe quand même richissime, famille Hersant qui coule des jours heureux en Suisse, à l'abri justement du fisc, et qui a décidé de mettre sur le carreau les 1650 travailleurs de Paru Vendu et tous ceux qui fabriquaient le journal du groupe Eptoprint Comareg. Je peux vous dire, quand on rencontre ces travailleurs-là,
et les Jabis,
les Petroplus, les ArcelorMittal, les Fralli. Je peux vous dire qu'on sent la révolte et la rage.
Vous connaissez la principale cause d'inscription à la NPE, à Pôle emploi, pardon. Vous êtes économiste, vous connaissez la principale cause, les pourcentages d'inscription à Pôle emploi.
Ça peut être, là, ça peut être les CDD, ça peut
c'est
être
l'intérim. Dans l'immense majorité, c'est les CDD.
Oui, et alors, vous appelez pas ça licenciement, vous ? Quand les CDD sont renvoyés, moi j'appelle ça un licenciement. Quand un intérimaire est renvoyé, j'appelle ça un licenciement. Pour moi, c'est un licenciement.
Vous voulez interdire les licenciements, venons-y.
Oui, je suis
vous êtes agrégé d'économie, si j'ai bien lu. Avez-vous un exemple dans l'histoire économique récente, dans nos pays, dans nos économies actuelles, de mise en pratique de cette mesure et de ses résultats? Est-ce que vous pouvez l'évaluer?
Non, je n'ai pas d'exemple. D'accord. Et il ne faut pas vous en étonner. De partout, c'est la même classe capitaliste qui domine.
Oui, certes, mais
c'est eux qui sont libres. Ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent.
Quand on est responsable politique, avec une parole responsable, est-ce que c'est prudent de prôner une mesure qui n'a jamais été mise en pratique?
Vous êtes en train de me dire que ce qui n'a jamais été mis en pratique ne peut pas exister. Alors bon, on est prêt.
On est condamné à quoi? Des études d'impact.
On est condamné à faire quoi? À faire du sur place? Justement.
En économie, quand on lance une mesure inédite, on fait d'abord des études d'impact préalables. Est-ce que vous avez dans vos modèles économiques mis en place par vos commissions? Je sais que vous êtes un parti très sérieux, très structuré, avec des ressources intellectuelles très sérieuses, très riches.
Pas trop de flatterie non plus. Hein. Pour en venir à quelle question? Alors,
oui,
Samir.
Est-ce que vous avez fait tourner un modèle économique avec des interdictions de licenciement? Et quels sont les résultats?
Écoutez, des études d'impact, comme vous dites, on en fait depuis 40 ans sur leur politique. J'ai quand même droit à la parole.
Donc, est-ce que vous avez étudié l'impact de l'interdiction de licenciement?
Profite, n'est-ce pas?
Est-ce que ça risquerait pas d'asphyxier
complètement
l'économie?
Mais les études d'impact de leur politique à eux, de la droite et de la gauche, qui consistent systématiquement en matière de chômage à inciter le patronat à les aider à embaucher en mettant des cadeaux, des millions de cadeaux sur la table en disant ne payez plus de cotisations pour eux. Alors, on ne paye plus pour les handicapés, on ne paye plus pour les jeunes, on ne paye plus pour les smicards. Et embaucher, est-ce qu'ils embauchent? Ils n'embauchent
pas.
Ça fait 40 ans qu'ils font cette politique.
Vous faites campagne sur une mesure forte que vous n'avez même pas étudiée. L'éventuelle application.
Mais il n'y a pas besoin de l'étudier, excusez-moi.
Si on
interdit les licenciements, bien sûr que ça arrête tous les licenciements d'intérimaires chez PSA, chez ArcelorMittal.
Est-ce que ça vide le stock de 4 millions de chômeurs?
Et ça enlève 1000 chômeurs de plus par jour.
Est-ce que ça vide le stock de 4 millions de chômeurs?
Alors, ça ne vide pas le stock. Mais ça arrête, ça ferme le robinet, voyez-vous.
Simple.
Et là, il n'y a pas besoin de faire de grandes études. Il y a... Non, mais je continue là-dessus. Il y a 1000 chômeurs de plus tous les jours. Et c'est effectivement des CDD. C'est effectivement des intérimaires. N'empêche, écoutez.
Chaque mois, nous avons 300 000, effectivement.
Merci.
Nous avons des flux.
Mais vous savez quand même comme moi que le chômage ne fait que monter. Hein, d'accord? Et qu'il y a eu 1 million de chômeurs de plus sur 5 ans. Et que c'est une hémorragie qu'il faut arrêter. Donc ça, si vous voulez, c'est une mesure de bon sens. Et j'ai pas besoin de tirer des plombs sur la comète pour dire que la première chose à faire quand on veut combattre le chômage, c'est d'arrêter les licenciements, justement.
Alors
on arrête les licenciements et je peux vous garantir que tous les grands groupes, ils ont les moyens de garantir les emplois.
Une entreprise perd, hélas, tous ses marchés. Malheureusement, ça se voit fréquemment. Les salariés sont là, ils n'ont plus de boulot, hein, les machines s'arrêtent. Ils restent dans l'entreprise, selon votre schéma.
Exactement.
Qu'est-ce qu'ils font?
Ils restent dans l'entreprise.
Et qu'est-ce qu'ils font?
Eh bien, ils sont payés.
Mais ils sont payés à quoi faire?
Ils sont payés. Mais
s'il n'y a plus de marché.
Il n'y a plus de marché. Mais
quand il n'y a plus de travail.
Alors, il n'y a plus de marché.
C'est pas leur faute. C'est pas leur faute. On est d'accord.
Et alors, il faut quand même qu'ils crèvent. C'est
non,
ça que vous êtes en train de me dire.
Pas.
Si, vous êtes en train de me dire ça.
Non.
Vous êtes en train de me dire, les dirigeants sont des incapables. Les dirigeants sont des incapables. Les dirigeants n'ont plus de marché. Ils ne savent plus quoi vendre.
C'est
ils ne savent plus produire, etc. Leur économie, elle est complètement dingue. Les travailleurs, ils n'ont qu'à aller crever au chômage. Parce que c'est ça, c'est une condamnation au chômage. Alors moi, je dis que dans ces groupes-là, et là, on parle de PSA, on parle d'ArcelorMittal, des groupes qui font encore des profits, excusez-moi.
Donc, ce n'est pas toutes les entreprises qui...
Par ces grandes entreprises.
Des entreprises qui font des profits.
Dont vous avez entendu parler, quand même, qui fermaient des usines, qui programmaient des licenciements, vous en avez entendu parler.
Bien sûr,
tous ces groupes-là, moi, je dis que oui. Ils doivent. C'est une obligation qu'on doit leur faire et leur imposer de garder leurs salariés.
Vous parlez des entreprises qui réalisent des profits et qui licencient.
Exactement.
Ce n'est pas une règle générale, donc.
Oui, mais c'est une règle générale aussi, qu'il faut aussi imposer aux PME, comme Faurecia, comme Valeo, toutes ces PME qui gravitent autour de ces groupes et qui ont aussi beaucoup d'argent, ou alors à qui on peut dire, allons prendre chez le donneur d'ordre l'argent D'accord. qu'il faut. Mais vous comprenez, écoutez, quand on est dans la situation que vous décrivez,
Laquelle?
Les actionnaires, y compris la situation que vous dites, il n'y a plus de commandes, l'entreprise ne marche plus, etc. Dites-moi, les actionnaires qui sont encore payés, qui ont encore leurs dividendes, et puis qui ont accumulé, est-ce que ça leur pose un problème, eux, hein, d'en toucher un petit peu moins, voire de ne plus du tout en toucher? Ça leur pose aucun problème,
est-ce
parce que
eux,
ils ont un matelas.
Est-ce que pour vous, le mot compétitivité est un gros mot? La compétitivité de l'économie française, la compétitivité des entreprises.
C'est un mot patronal, ça c'est évident, et c'est toujours pour imposer eh bien, des sacrifices aux travailleurs. Alors moi, j'ai rien contre le fait que les entreprises baissent leurs prix. Aucun problème, mais elles peuvent aussi baisser leurs prix en diminuant les marges. Voilà, alors, les marges bénéficiaires en rognant sur les profits. Parce que quand même, il y a quand même quelque chose qui doit vous interpeller en tant que grand économiste. Moi, je ne me considère pas comme grand économiste.
Vous, justement, c'est vous ici, la science économique.
Il y a quand même quelque chose qui doit vous interpeller. C'est comment dans cette période de crise, hein, catastrophique là, comment ces gens-là arrivent à préserver leur fortune et comment ils arrivent à présenter 73 millions
Moi, ce qui
ou 73 milliards,
ce qui
73
fois,
milliards de profits. Comment y arrivent-ils?
Ce qui m'interpelle encore une fois, c'est comment une agrégée d'économie peut faire campagne sur des mesures fortes qui semblent assez déconnectées de la réalité. Oui. L'autre mesure que vous préconisez, si je me souviens bien, c'est le contrôle des entreprises par les travailleurs.
Oui.
C'est cela.
Ah,
alors là, bon, on peut avoir un modèle, c'est peut-être les Soviets de 1917 ou la Yougoslavie de Tito. On ne peut pas dire que ce soit des modèles qui ont laissé un souvenir économique impérissable dans l'histoire.
Oui, écoutez, on peut en discuter du modèle économique, y compris de l'Union soviétique dans les années 30-40. On pourrait en discuter.
C'était l'école de la NEP.
Vous savez, oui, mais...
soviétique a été de nouveau obligée de s'ouvrir aux capitaux étrangers.
On peut en discuter. Vous savez, il y a une industrialisation de l'Union soviétique, justement, là, en l'occurrence, sans la bourgeoisie, vous voyez, sans ceux qui apportaient les capitaux. Ils ont développé une économie différente. Ben, écoutez, moi, ça m'intéresse, y compris de regarder ça. Mais vous voyez, vous dites ce contrôle. Mais moi, ça me paraît être quelque chose de bon sens. Excusez-moi, mais les travailleurs qui font tourner une entreprise, qui la font vivre, qui font sa richesse, vous trouvez anormal qu'ils puissent savoir exactement l'argent qu'il y a dans l'entreprise? Ça vous choque que les travailleurs, quand même, qui la font tourner l'entreprise, puissent savoir quel est l'argent réellement dans l'entreprise? Ce que l'entreprise verse en salaire, ce que le travail rapporte, ce qu'elle verse en dividendes, ce qu'elle met en provision, ce qu'elle met de côté pour essayer de racheter son concurrent. En quoi ça vous choque que les travailleurs puissent savoir ça?
Ça me choque pas. Ce qui m'interpelle, c'est que vous n'envisagez aucune demi-mesure. Par exemple, vous parlez du contrôle des entreprises par les travailleurs.
Oui.
Il y a la transparence. Il y a des échelles intermédiaires. Il y a les statuts de coopérative qui sont des démarches volontaires. Il y a la cogestion à l'allemande. Est-ce que la cogestion pour vous est un gros mot? Fait que des travailleurs représentés par leur syndicat puissent gérer leurs entreprises avec le patronat, c'est un gros mot
Si je comprends bien, que les travailleurs puissent contrôler l'argent, les décisions, les discussions, les projets qui sont en cours dans l'entreprise, ça vous apparaît être une mesure extrémiste, c'est ça?
Non,
très
pas du
radicale.
Tout. Non.
À grande échelle, à l'échelle de passer du jour au lendemain.
Moi, ça me semble être normal. Et même, je vais vous dire, ce qui me semblerait normal, c'est que non seulement les travailleurs puissent le savoir, et même la population. Parce que vous voyez, des grands groupes comme Total qui vont forer à 4, 5 km en dessous de la terre, que ces choix-là soient aussi proposés à la population avec les risques, qu'on puisse décider ensemble. C'est quand même des décisions. Pourquoi sont-elles laissées dans la main d'une minorité? Ça nous concerne tous. Les dégâts, c'est quand même bien nous qui les payons. Donc moi, je trouverais ça me paraît, je sais pas, être du bon sens, quelque chose. C'est ça pour moi la démocratie. C'est que ces décisions-là qui pèsent sur nos vies quotidiennes, eh bien, on les connaisse et qu'on puisse donner notre avis aussi dessus. Je vois pas en quoi ça vous choque.
Deux questions, alors rapides, parce que vous avez...
Non, mais c'est passionnant, nous sommes sur des sujets de fond.
C'est passionnant et passionné, surtout.
On va revenir sur des sujets politiques. Olivier Besancenot, hier, vous l'avez entendu, a souhaité, en cas de victoire de François Hollande, il a souhaité la constitution d'une opposition sociale et politique à la gauche du gouvernement, et il a souhaité que vous en soyez. Vous en seriez? Votre stratégie d'aller vers l'explosion sociale ou de peser sur le gouvernement pour qu'il mène une vraie politique de gauche?
Vous savez, c'est pas une stratégie d'aller vers l'explosion sociale, c'est les patrons eux-mêmes qui vont là. Ils sont assis sur un volcan. C'est eux qui en sont en train. C'est ceux qui sont en train de faire l'ébullition. Écoutez, l'union politique avec Jean-Luc Mélenchon, on n'a pas la même politique que Jean-Luc Mélenchon. Bon, alors, je sais bien que pour Besançon, on a tous la même politique. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas avec le Front de Gauche, à vrai dire.
Certains y sont.
Mais nous, on n'a pas la même politique que le Front de Gauche. Donc, autant on peut être ensemble dans les manifestations, dans les grèves, et en même temps, on n'a pas les mêmes idées et la même politique. Donc, que chacun défende ses idées. Je ne vois pas le problème là encore.
Une dernière question.
C'est la démocratie, ça aussi.
Une dernière question qui est un peu politique. C'est un peu, pourriez-vous m'expliquer cette curiosité? Pourquoi nous avons deux partis trotskistes en France alors qu'il n'y en a presque pas ailleurs dans le monde? Et deuxième question.
Vous êtes mal renseigné.
Les trotskistes, enfin Léon Trotsky rêvait de la révolution dans plusieurs pays. Il était cosmopolite, ce qui l'opposait à Staline. Or vous, dans toutes les mesures que vous avancez, vous n'envisagez à aucun moment, contrairement à beaucoup d'autres candidats à l'élection présidentielle, des alliances avec des partis frères.
Mais vous êtes assez mal renseigné parce que le NPA n'est pas un parti qui se revendique de Trotsky. Hein, plus un parti qui se revendique de Trotsky. Donc je vous rassure, voilà. Il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un, c'est Lutte ouvrière, oui. Nous sommes, nous, communistes. D'ailleurs, bon, moi je m'en réclame ouvertement, effectivement. Hein, une société organisée collectivement, qu'on mette en commun les banques, voilà, les grands moyens de production. Voilà. Et je suis la seule à m'en réclamer. Alors voilà, c'est comme ça. Et par ailleurs, vous savez, la révolte, regardez ce qui s'est passé dans le monde arabe. Hein, les révoltes, elles ont été contagieuses. Ben nous, on pense que c'est ce qui se passera. S'il y a une révolte profonde dans un pays, eh bien oui, elle sera contagieuse dans les autres pays. Mais là encore, c'est plus les patrons, si vous voulez, qui œuvrent que nous, les révolutionnaires.
Ils font le boulot à votre place, alors. Hein, on a compris. Ils sont forts, finalement. Ben,
écoutez,
ils vous aident.
Force,
on a compris.
À force d'écraser la population, oui.
Merci Samir Tounsi, pour avoir apporté aussi brillamment la contradiction sur les thèses développées par Lutte ouvrière. Nathalie Arthaud, un mot, tiens, sur la taxation, on n'en a pas parlé. Nicolas Sarkozy veut augmenter un petit peu la taxation des hauts revenus, un petit peu, j'ai dit. François Hollande, il veut créer une nouvelle tranche à 45% et à 75% au-delà de 1 million d'euros. Jean-Luc Mélenchon, lui, prend tout au-dessus de 350 000 euros par part. Vous prenez tout à partir de combien?
Non, mais nous, on veut des salaires dignes. Donc, on prend en commençant par augmenter les salaires. Le SMIC à 1 700 euros et forcément, ça prendra sur leur profit.
Bon.
Parce que le problème, ce n'est pas de prendre aux plus riches, c'est de permettre aux plus pauvres et aux travailleurs de vivre normalement. Donc, d'augmenter les salaires, les pensions de retraite des petites gens.
Et les impôts des riches?
On pourra imposer, bien sûr.
On n'est pas de chiffres.
Je ne suis pas contre. Mais d'abord, la priorité, c'est augmenter les salaires.
J'imagine que contre.
C'est surtout faire que les gens puissent remplir leur frigo.
Père Internaud de Public Sénat va nous rejoindre. Mais d'abord, avec Tam Tranui, on voit comment ça se passe avec justement les partis que l'on croit frères, qui ne le sont pas totalement. Et là, rencontrer certains de vos camarades, on va les appeler comme ça, du NPA, qui voudraient bien lutter, certains en tout cas, à vos côtés, même s'ils trouvent votre fonctionnement, on va dire, un petit peu opaque, en quelque sorte, la légende. Grande crise de Lutte ouvrière serait fondée.
Travailleuses, travailleurs, camarades et amis.
Les partis de la gauche révolutionnaire n'ont plus la cote. Qu'il s'agisse du NPA ou de Lutte ouvrière, ils ne dépassent pas pour l'instant 1% d'intention de vote. Ah, il est bien loin le temps béni d'Arlette Laguillé et d'Olivier Besancenot, l'époque où la LCR et Lutte ouvrière atteignaient ensemble les 10% en 2002.
Bon, Arlette Laguillé, elle perçait l'écran. Olivier Besancenot, ils ont fait 1 million de voix. Succéder à des gens très connus et très populaires, c'est vrai que pour Nathalie Arthaud, c'est une tâche qui n'est pas facile.
Malgré leurs mauvais sondages, les deux dernières formations de la gauche trotskiste ne sont pas prêtes de s'allier. Je t'aime, moi non plus, un amour à sens unique, voilà qui résume leur relation. Le nouveau parti anticapitaliste se verrait bien lutter au quotidien avec Lutte ouvrière et avec bien d'autres, mais la réciproque n'est pas vraie.
Moi, le reproche, mais très fraternel qu'on fait à Lutte ouvrière, c'est de ne pas être assez dans les cadres unitaires au niveau des mobilisations, que ce soit sur la dette, la défense des immigrés, les problèmes de la retraite, etc.
Si la critique se fait du bout des lèvres et avec le sourire chez les cadres du NPA, les militants deux étages plus bas sont beaucoup plus francs du collier.
Même une lutte défensive victorieuse, on ne la gagnera pas sans le Parti communiste, sans le Front de Gauche, sans les syndicalistes, sans les milliers de syndicalistes, ou non d'ailleurs. CGT, les solidaires, un peu même de CFDT, un peu de FO. Enfin, on fera pas, on va pas mener des luttes qu'avec des révolutionnaires. C'est ridicule.
Alors oui, chez les camarades du NPA, on trouve la position de Nathalie Arthaud pas très enviable, mais pas seulement parce qu'elle est dans l'ombre d'Arlette Laguillé.
C'est une tâche assez rude, hein, c'est vrai, d'être porte-parole, et surtout de peut-être spécialement de Lutte ouvrière, peut-être. J'imagine qu'on peut moins faire de faux pas. Il n'y a pas de répression, mais les militants ici sont peut-être quand même au NPA sont plus libres quand même, je pense, de s'exprimer, d'avoir des petites divergences d'analyse de la situation, etc.
Alors Lutte ouvrière, un brin dogmatique, pas très ouvert, peut être la face cachée de l'indépendance révolutionnaire.
Bonsoir Nathalie Artaud. Alors, bonsoir. Lutte ouvrière, organisation dogmatique.
Bah écoutez, ce qui me frappe, moi, dans ce reportage, c'est que finalement, ils expliquent, voilà, Lutte ouvrière, finalement, reste dans son coin. La réalité, ils la connaissent, c'est qu'on est de toutes les mobilisations, de toutes les manifestations, contre les retraites. Évidemment, à chaque fois qu'il y a une mobilisation pour défendre le droit de vote des travailleurs immigrés, la régularisation des sans-papiers, on est toujours là. Et on est évidemment pour... On est de tous les combats. Et en même temps, dans les combats, on pense qu'il y a la place pour toutes les idées. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être tous alignés derrière le même point de vue. Donc, vous voyez, on n'est pas, nous, dogmatiques. Au contraire, on pense qu'on peut être ensemble dans les luttes et en même temps, défendre des politiques différentes et laisser choisir. Alors, vous voyez, ils reprochent ça, finalement, à Lutte ouvrière, alors qu'au contraire, c'est notre point de vue.
Mais toujours est-il qu'il reste un peu toujours cette image opaque, voire de secte, autour de Lutte ouvrière.
Vos fantasmes, c'est vos fantasmes. Hein. Là, moi, je peux rien contre ça. Hein.
C'est pas les fantasmes des journalistes, c'est peut-être parce que vous manquez d'ouverture au grand public.
Pourquoi ? Dites-moi pourquoi.
Vous ne voulez jamais parler vraiment de l'organisation, vous ne voulez jamais vous parler en tant que candidate de votre vie privée.
Excusez-moi, alors là, ça n'a rien à voir. Vous savez, bah oui, attendez.
Si, un peu quand même, parce que...
Ah bon ?
Si, je vais vous dire pourquoi.
Savoir ce que j'aime manger, combien d'heures je dors, je vois pas la... franchement, je pense que ça n'a pas sa place.
C'est pas ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez d'ailleurs déclaré dans Le Monde ce week-end que les problèmes personnels, les choix personnels...
sont des problèmes politiques.
Le mariage, oui, l'union libre, sont des choix privés, mais ce sont également des problèmes politiques. Alors là, franchement, c'est intrigant.
Vous avez mal lu l'article,
mauvaise
car ce
citation.
Ne sont pas mes mots. Ce ne sont pas mes mots.
C'est entre guillemets les problèmes politiques.
Non, c'est la journaliste qui a dit ça, ce ne sont pas mes mots. Pareil, parce que...
Les choix privés sont des problèmes politiques à Lutte ouvrière ou non ?
Nous avons des positions, des idées sur effectivement beaucoup de choses, y compris de la vie privée. Nous sommes pour l'union libre, nous sommes pour le mariage homosexuel, nous sommes plutôt favorables pour le droit de mourir dans la dignité. Voyez,
le mariage homosexuel, mais pas pour le mariage hétérosexuel.
Nous sommes... Mais attendez, nous...
Je ne sais
sommes...
pas, je vous pose la question, mais... vous dites l'union libre.
Comprenez bien, je comprends que vous découvriez peut-être des gens qui sont pour l'union libre, mais c'est-à-dire qu'en fait, nous, on ne voit pas... Vous savez, c'est Brassens, hein, pourquoi mettre son nom au bas d'un parchemin, n'est-ce pas ? Voilà, maintenant, on n'a rien contre le fait que les gens se marient. Et d'ailleurs, nous disons que les couples homosexuels qui le désirent peuvent se marier.
Non, mais là, vous parlez des choix sociétaux de Lutte ouvrière, ce n'est pas la question.
C'est des choix privés. Et... À chaque fois,
là, on parle des choix privés des militants.
Là, on parle de la vie privée. Mais justement, c'est là qu'il y a une confusion.
Et là, ça devient un choix politique.
C'est là que ça devient une confusion. On peut avoir un point de vue sur bien des aspects de la vie privée et en même temps, évidemment qu'on est libre. Et tous nos choix, c'est justement des choix pour la liberté, des choix progressistes, de laisser chacun libre de ses choix. C'est toutes nos positions, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ? Vous êtes en train de me dire que quoi ? Un parti va imposer des choses à ses militants, c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Eh bien, ça, c'est des bêtises.
Est-ce que quand vous êtes militante de Lutte ouvrière, vous devez renoncer à toute vie privée ?
Eh bien, non, madame, c'est bien ce que je vous disais. Là, il s'agit de fantasmes, donc il faut comprendre les choses.
Vous ne renoncez pas à certains secrets dans votre vie privée. Là, il y avait une autre citation que vous allez pouvoir dire qu'elle était inexacte. Même mes parents ne savent pas tout.
Parce que vous dites tout à vos parents, monsieur Grossiot ?
Pas tout, non. Mais
depuis très très jeune...
En gros, ils savent.
Moi, depuis très très jeune, effectivement, je suis plutôt secrète. Voilà. Ouais. Mais je crois que c'est un trait de personnalité. Je racontais pas tout à mes parents quand j'avais 14, 15 ans. Peut-être que vous, si, je sais que, dans certaines familles, ça se fait, mais... Non, mais ça, c'est...
Bon, en tout cas, Lutte ouvrière vous laisse la place dans votre vie pour faire autre chose que de militer.
Mais je vous rassure, je suis normale. Vous pouvez... Voilà. Si ça se trouve, j'ai plus de temps libre même que vous-même, vous voyez.
J'espère pour vous.
Eh bien, voilà.
Voilà, là. Mais quels sont les loisirs de Nathalie Arthaud, par exemple ? Non, mais dans une campagne présidentielle, c'est aussi une rencontre entre un homme, une femme et les Français. Donc, il faut qu'ils aient envie d'avoir envie de quelqu'un pour voter pour lui.
Non, enfin, là...
Il faut connaître un petit peu
la personnalité.
Là, je ne crois pas.
Je crois qu'il faut surtout que, effectivement, je m'attends en avant dans mes idées, c'est un accord sur mes idées, c'est ceux qui auront envie de dire la même chose que moi qui voteront pour moi. Maintenant, je suis normale, voilà, je suis dans un club sportif, je fais de la natation, j'ai des amis, je suis au cinéma, je suis passionnée de lecture.
Vous faites tout avec la même fougue, sans prendre
je fais des footings,
le temps de respirer.
Voilà, je suis tout à fait normal.
Michel, qui est très soucieux de votre santé, vous demande si vous faites toujours tout comme ça avec cette air très tonique, sans respirer.
Non, mais là, il faut dire que vous m'avez quand même un peu mis sur le grill.
Il y a un sondage qui est tombé là, à l'occasion de la Foire de Paris, figurez-vous. 84% des Français se voient joyeux. Est-ce que c'est votre cas?
Écoutez, en tout cas, moi, je me vois surtout d'une confiance, c'est sûr, indéfectible en l'humanité, voilà. Et je suis convaincue qu'on arrivera à résoudre les problèmes, les problèmes énormes de notre économie, de notre société. Je suis convaincue qu'on peut aller de l'avant. Hein, et que tout ce que vous me dites, oulala, mais il faut pas, on peut rien imaginer d'autre, de différent, l'inconnu, oulala, non.
C'est pas ce qu'on vous dit, nous, on pose des questions.
Je suis convaincue au contraire que tout ça, on peut inventer et on peut améliorer bien des choses.
Je voulais revenir sur le reportage qu'on vient de regarder. On écoutait cette militante du NPA qui avait l'air soucieuse pour vous si votre score n'était pas très satisfaisant au premier tour. Elle parle de répression, c'est vrai ça?
Elle a parlé de répression?
Oui.
Eh bien, écoutez, voilà, c'est son point de vue. Hein. Vous
verrez. Aussi, c'est encore un fantasme.
Qu'est-ce que vous pensez, que je vais être pendue, c'est ça? Non,
je sais pas, je vous demande.
Non, mais écoutez, là, franchement, c'est...
Mais est-ce que vous êtes fixé un objectif?
Écoutez...
Pour le premier tour, pour votre score?
Non, on n'a pas d'objectif.
Non.
Non,
mais on peut avoir une ambition, atteindre 5%, par exemple.
Notre ambition... C'est de faire comprendre justement nos idées, de faire comprendre ce qu'on est, de faire comprendre nos perspectives, c'est de pouvoir effectivement les diffuser à grande échelle, montrer justement qu'il y en a qui ne se résignent pas, qui n'ont pas envie de se laisser faire, qui contestent la société, qui sont prêts effectivement à dire, eh bien voilà, le chemin qu'on nous montre, dont on nous dit qu'il ne faut pas en sortir, eh bien si, la réalité c'est qu'on peut changer ça, voilà. Il y a eu des révolutions, il y a eu des révoltes, tout ça, c'est devant nous, bah oui. Voilà, c'est de faire entendre ça. Et vous savez, moi je suis convaincue que ça ne tombe pas dans l'oreille de sourd. Je ne sais pas combien iront voter pour ma candidature, mais ça ne tombe pas dans l'oreille de sourd, ça tombe dans l'oreille de gens quand même, qui se posent des questions sur ce qui se passe dans la société et qui se sentent, y compris, condamnés quand même par la société. Parce que vous savez, quand on se retrouve au chômage aujourd'hui, on se dit qu'on n'a plus d'avenir dans cette société, qu'on est laissé de côté, qu'on n'a plus de vie. Donc je peux vous garantir que tout ça, tôt ou tard, eh bien, ça portera ses fruits. Donc nous, c'est effectivement ça, c'est porter nos idées, c'est les défendre et montrer qu'il y en a qui ne se résignent pas et qui sont prêts à aller de l'avant.
On vous a beaucoup comparé à vos débuts à Arlette Laguiller, parce qu'il y a une certaine ressemblance physique. Est-ce que cette ombre vous a pesé? Est-ce qu'elle...
Eh bien voilà, ressemblance physique, sans doute.
Non, mais est-ce que ça vous a pesé d'être souvent comparé à Arlette Laguiller, qui est quand même une figure tutélaire de l'élection présidentielle en France? Elle a été 6 fois candidate?
Non, pas du tout. Et je dois vous dire que, enfin, moi, ça me fait plutôt plaisir. Ça me fait plaisir.
Elle vous a donné des conseils?
Bien sûr. Et puis, c'est une facilité parce que...
Quel point, par exemple?
Elle m'a ouvert la voie. Moi, je pense qu'effectivement, quand je parle, je suis assez identifiée, justement. On est dans le camp des travailleurs. On n'a jamais retourné notre veste, jamais trahi, jamais changé de politique. Donc voilà, et puis évidemment, oui, elle me conseille, elle écoute les interviews.
Elle occupe une place importante dans votre parcours politique?
Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment, elle a incarné Lutte ouvrière, elle a beaucoup compté, elle continue de compter.
Merci à vous. Nathalie Arthaud, de votre présence aujourd'hui encore. On vous reçoit régulièrement sur la chaîne publique Sénat.
C'est vrai.
Le dire. À 22h30, il y a un autre rendez-vous avec Preuve par 3 et notre invité sera Jean-Pierre Raffarin. À tout à l'heure, donc en tous les cas, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal de 19h. Bonsoir à tous.